Vous écoutez
RMC.
Il est 6h30 et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les Français trop laxistes dans l'utilisation des médicaments. L'Agence nationale de sécurité du médicament s'inquiète et lance une campagne de sensibilisation. Mobilisation au plus bas contre la réforme des retraites. Tous les regards sont désormais braqués vers l'Assemblée nationale où le texte du groupe Liotte visant à abroger la réforme des retraites doit être étudié demain, sauf si la présidente Yael Braun-Pivet décide de son irrecevabilité. Et puis après une saison en demi-teinte et un titre de champion de France, Christophe Galtier quitte le PSG. Il a été démis de ses fonctions hier.
Attention à l'automédication, alerte lancée par le gendarme du médicament français.
Oui, l'Agence nationale de sécurité du médicament lance ce mercredi une nouvelle campagne de sensibilisation sur le sujet. Vidéos, spots radio et sites internet, l'ANSM souhaite alerter les Français sur les risques de médicaments mal ou trop pris. À titre d'exemple, 3 Français sur 10 adaptent eux-mêmes leur dose ou la durée de leur prise médicamenteuse prescrite. Marion Gauthier et Caroline Philippe ont pu constater qu'en la matière, les Français ne sont pas très bons élèves.
D'abord, assuré de son sérieux.
Il est respectueux.
Ah ouais, moi je suis respectueux.
Mais la date de péremption sur les petites boîtes en carton.
C'est comme pour les yaourts, quand ils sont périmés, ils sont encore bons 15 jours après. C'est pareil pour les médicaments.
Pas de risque pour Annick et pour Michel non plus quand il a prolongé son traitement sans l'avis de son médecin.
Il m'a mis 8 jours sur antibiotiques. Je continuais encore à tousser. Et comme il me restait encore des antibiotiques dans mes boîtes, j'ai continué la prescription sur 7 jours supplémentaires.
C'est vrai qu'on devient soigné par soi-même parce qu'un rendez-vous chez un médecin, c'est pas avant 15 jours.
Se soigner soi-même ou compter sur les amis, Lola, comme un Français sur deux, prête son médicament à des proches.
Comme je prêterais un Doliprane. En fait, les symptômes que moi je reconnais comme étant de l'allergie, prends du Xizal parce que moi c'est ce que j'utilise.
Les médicaments banalisés en France, alerte Catherine Simonin de France Asso Santé.
Ne serait-ce qu'avec le paracétamol, tout surdosage, c'est un danger avec un risque de destruction du foie, donc un risque mortel.
D'après une étude, les mésusages de médicaments sont la cause de 34 000 hospitalisations par an.
La mobilisation contre la réforme des retraites marque le pas. 280 000 personnes ont manifesté hier pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Selon les autorités, ils étaient un peu plus de 900 000 selon les syndicats. Le match est en train de se terminer, dit Laurent Berger, leader de la CFDT, qui appelle à se concentrer désormais sur la suite. Les questions du pouvoir d'achat, des salaires ou encore des conditions de travail. C'est donc à l'Assemblée nationale que pourrait se jouer le dernier acte de cette mobilisation. Le texte visant à abroger la réforme déposée par le groupe Liotte doit être débattu demain, mais la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, pourrait activer l'article 40 visant à rendre le texte irrecevable financièrement. Un recours constitutionnel, Romain Cluzel, difficilement acceptable par l'opposition.
Censurer le texte du groupe Liotte, c'est une erreur majeure, estime Clémentine Autain. Pour la députée insoumise, Yael Braun-Pivet ne tient pas son rang de présidente de l'Assemblée.
C'est complètement dingue. C'est un choix politique et elle n'applique absolument pas la règle, la tradition, la coutume, la jurisprudence en la matière. Est-ce qu'elle est présidente de l'Assemblée nationale ou est-ce qu'elle est un pion de la Macronie?
Aucun doute au Rassemblement national. C'est la deuxième hypothèse qui l'emporte. Le député Franck Alizio voit dans cette décision un nouveau coup de force du camp présidentiel.
La présidence de l'Assemblée nationale est un petit peu dans le rôle de chaîne garde de l'exécutif et de la majorité parlementaire, c'est la queue de comète du 49-3. Il continue à essayer de financer avec le Parlement, de financer avec le peuple, avec la démocratie.
Au-delà de ce texte, les oppositions dénoncent une décision sans précédent qui pourrait franchement limiter les futures propositions des groupes d'opposition. Une inquiétude balayée par le député Renaissance Jean-René Cazeneuve.
C'est au contraire une application intelligente de notre règlement intérieur et de la Constitution. C'est la moindre des choses quand on est député. Elle a respecté la procédure du début jusqu'à la fin.
Des arguments inentendables pour l'opposition. Plusieurs groupes, dont la France Insoumise, menacent de déposer une motion de censure.
Yael Braun-Pivet qui sera votre invité à Pauline ce matin à 8h35 sur RMC et BFM TV. Un jeune sur 10 en difficulté de lecture, constat d'une étude menée par le ministère de l'Éducation nationale. Des tests ont été réalisés auprès de 750 000 participants âgés de 16 à 25 ans lors des journées de défense et citoyenneté. Et parmi eux, 5%, près de 5% se trouvent en situation d'illettrisme, véritable handicap et un complexe pour les personnes concernées. Le reportage de Romain Poiseau.
D'après le ministère de l'Éducation, ce sont donc 35 000 jeunes de 16 à 25 ans qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.
C'est une véritable catastrophe. Ne pas savoir lire, c'est vraiment une prison qui nous enferme. On est en retrait de la société.
Et Aline, 62 ans, sait de quoi elle parle. Elle a souffert d'illettrisme jusqu'à ses 50 ans, véritable calvaire au quotidien depuis son enfance.
De toute façon, on se sent tellement inférieur, on se cache de tout. Déjà, les gens ils en reviennent pas, quoi. Ils disent, mais elle est débile. On peut pas aller chercher du travail n'importe où. On peut pas faire un courrier. On est très limité.
Mais souffrir d'illettrisme n'est pas une fin en soi. À 50 ans, Aline est retournée à l'école pour apprendre à lire.
Ça m'a prouvé que j'étais pas bonne à rien.
Retourner à l'école, oui, mais il faut surtout travailler en amont, détecter les difficultés d'apprentissage dès le plus jeune âge. Pour Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.
C'est 5% chez les plus jeunes, c'est plus de 15% chez les plus âgés. Ça nous indique l'endroit où faire porter les efforts, c'est-à-dire agir le plus tôt possible pour que l'illettrisme ne prenne pas racine.
Et parmi les 2,5 millions de personnes confrontées à l'illettrisme en France, la moitié n'a pas d'emploi.
Le reportage de Romain Poiseau pour RMC. Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Alex Biggerstaff, on a appris qu'il a été démis de ses fonctions hier après une saison mitigée sur le banc parisien.
L'annonce a été faite par le conseiller sportif du club, Luis Campos. Le coach de 56 ans s'en va par la petite porte après une saison marquée par les polémiques extrasportives et notamment les faits supposés de racisme lors de son passage à Nice. Sur le plan sportif, son bilan ne pèse finalement pas lourd. Malgré le trophée des champions et le 11e titre de Ligue 1 du club, beaucoup retiennent encore les éliminations précoces en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich et en Coupe de France par l'Olympique de Marseille. La saison a pris un mauvais tournant après la Coupe du Monde de décembre pour se transformer en spirale infernale. Pour preuve, les sifflets lors des célébrations samedi dernier pour accompagner une dernière fois l'annonce de son nom au Parc des Princes. Pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique et Thiago Motta ont notamment été sondés. Mais le favori reste l'ancien entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, qui pourrait arriver accompagné de Thierry Henry.
Les précisions d'Alex Biggerstaff ce matin pour RMC en direct. Le club de la capitale, qui s'intéresse d'ailleurs de près à l'attaquant tricolore Marcus Thuram, des contacts sont établis entre les deux parties. Pour rappel, le joueur de 25 ans arrive en fin de contrat avec son club actuel, le Borussia Mönchengladbach. On prend maintenant la direction de la Porte d'Auteuil.
RMC Roland Garros 2023.
Étincelant hier soir, Carlos Alcaraz élimine Tsitsipas en 3-7 en demi-finale du tournoi. L'Espagnol numéro 1 mondial affrontera Novak Djokovic, tombeur de Kachanov, en 4-7 chez les dames. Muchova et Sabalenka se qualifient pour le dernier carré à suivre aujourd'hui. Zverev face à Echeverry. Casper Ruud affronte lui Holger Rune. À suivre également Iga Świątek, la numéro 1 mondiale, face à Coco Gauff. Et 11 Jabeur opposé à la brésilienne Haddad Maia.
Et puis les courses, ouais, non, d'abord je suis très impressionnée.
Ouais, bravo.
On se regardait avec Charles, on se disait waouh. Les courses, c'est à Laval.
C'est à Laval, c'est pas le but. 18h aujourd'hui sur RMC Découverte. Non, c'était une petite blague.
Oui, but à Laval.
But à Laval, voilà.
Un classique du sport.
Voilà, le 2, impressionniste et le favori de la Dream Team RMC, l'outsider, c'est le 14. Happy Valley, le 2 et le 14.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 6h37 et vous êtes bien sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Médiathèque fermée à Nîmes à cause du trafic de drogue. Vent de panique dans le quartier du Plan à Valence, au lieu du trafic de drogue, là encore. Est-ce que les villes moyennes sont encore épargnées ou est-ce qu'elles deviennent, elles aussi, de nouveau Marseille? Vous habitez à Nantes, à Cavaillon, à Angers ou ailleurs. Venez donc témoigner au 32-16. Est-ce qu'il y a du trafic chez vous? On vous attend. On est avec Charles, Manu et Nicolas. À tout de suite.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, l'histoire du jour, repérée et racontée par le service Police Justice d'RMC. Hier, le préfet de Gironde justifiait l'utilisation de drones pour détecter des débordements lors des manifestations. Même chose à Rennes, sauf que hier, tout ne s'est pas passé comme prévu, Guillaume Biais.
Oui, une scène totalement insolite hier à Rennes lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Vous le savez, la police utilise désormais des drones pour survoler et filmer les cortèges, notamment pour mieux intervenir en cas d'incident. Eh bien, hier, dans le ciel rennais, un drone de la police a donc été pris pour cible, non pas par des manifestants, mais par des opposants inattendus, des oiseaux de mer. La séquence a fait beaucoup rire au cœur du défilé. Des mouettes ou des goélands, selon les témoins, se sont attaqués aux drones pilotés par les policiers. La scène a même été filmée par des manifestants. Du côté de la police, on n'avait pas franchement anticipé un tel risque. Alors au final, le drone n'a pas été endommagé, pas d'oiseaux blessés non plus aux dernières nouvelles. Mais concernant le phénomène, ce n'est pas surprenant d'après la Ligue de protection des oiseaux qui a été interrogée par nos confrères du Télégramme. Ils expliquent qu'on est en période de nidification pour les goélands et que pour protéger leurs petits, eh bien, ils s'en prennent à tout ce qui pourrait constituer une menace, y compris donc un drone qui s'incruste comme ça dans leur espace aérien. Voilà pour l'explication ornithologique. Reste maintenant à trouver la parade si la police ne veut pas devoir gérer désormais le maintien de l'ordre au sol et dans les airs.
Le récit de Guillaume Biais, chef du service police justice d'RMC.
RMC, 6h39.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h42 et vous êtes bien sur RMC.
C'est votre avis.
C'est votre avis et c'est votre vie surtout, parce qu'on voudrait vous entendre ce matin. Est-ce qu'il y a de nouveau Marseille un peu partout en France? C'est la question à la une après les événements à Nîmes et à Valence. Valence, on vous en parlait hier dans le journal de 8h, des menaces de mort, un vent de panique avant-hier chez les habitants d'un quartier. À Nîmes, la mairie a annoncé ce lundi la fermeture de la médiathèque du quartier de Pissevin, qui était carrément devenue un point de deal, tout simplement. Une médiathèque point de deal juste à côté de plusieurs écoles. Le quartier a changé en très peu de temps. Écoutez ce témoignage, il est recueilli à Nîmes par notre reporter Estelle Henry.
Il y avait des violences, il y avait des deals, mais beaucoup moins. Et donc là, le problème, c'est qu'on dirait qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. J'imagine mes petits élèves là, de 10 ans, 11 ans, qui passent au milieu de tout ça, qui voient et qui souffrent. Parce que qui est-ce qui souffre le plus? C'est la population du quartier, 12 000 habitants. Il n'y a pas de commissariat, mais c'est la folie.
Le témoignage de cette habitante de Nîmes. Est-ce que là où vous habitez, vous constatez aussi une augmentation du trafic de drogue en zone rurale, dans les villes moyennes comme Nîmes également? Il y a Dominique qui nous a appelé au 3216. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Apolline.
Bonjour Dominique, vous êtes fonctionnaire territorial, vous travaillez donc à Limoges.
Oui.
Est-ce que ce trafic de drogue, je reprends une expression qu'avait utilisée Jérôme Pierrat la semaine dernière, il était mon invité vendredi sur RMC BFM TV, il disait que désormais c'était comme une toile d'araignée sur toute la France. Est-ce que Limoges, est-ce que les endroits où vous allez, vous le constatez vous aussi?
Bien sûr, quand je suis arrivé il y a 40 ans, je venais de la Haute-Savoie, il y avait d'énormes problèmes de délinquance,
ouais.
De trafic et de délinquance, et quand je suis arrivé à Limoges, j'avais l'impression d'être tombé dans un village.
Ouais.
Au jour d'aujourd'hui, je l'ai constaté hier encore, sur une façade d'un magasin à côté d'un supermarché, d'une pompe service,
ouais.
D'une station de service, en gros tagué l'endroit où on peut aller chercher sa drogue, la cité juste à côté.
Oh, comme si c'était le programme, quoi, comme il y a marqué le prix du pain dans la boulangerie, quoi.
Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est clair que voilà, j'ai des commerçants en plein centre-ville qui, dans un petit square, constate tous les jours, constaté, je ne sais pas si c'est encore actuellement le cas, mais constaté du deal, ouais. C'est clair.
Du deal dans des squares. Alors quand vous dites square, c'est ça aussi ce qu'on pense et ce qu'on entend derrière, c'est que il y a plus de limites. C'est-à-dire que l'espace des enfants, que ce soit les écoles, que ce soit la médiathèque, comme on l'entend à Nîmes, que ce soit un square, comme vous le dites, ne sont plus des espaces tabous ou des espaces dans lesquels la drogue ou le trafic de drogue ne rentrerait pas. Et les enfants eux-mêmes sont enrôlés parfois dans le trafic. Donc
de toute façon, Apolline, excusez-moi, ouais. Mais de toute façon, oui, aujourd'hui, le trafic, il est quasiment partout. De l'argent facile est partout. Un gamin de 12 ans, dit, moi, j'ai des amis qui sont dans les forces de l'ordre et je leur tire mon chapeau très sincèrement parce que je sais pas comment le matin. Ouais. Ils peuvent prendre leur uniforme pour aller bosser parce que dans les conditions moi qui me donnent moi j'ai un ami qui est policier qui tous les jours est confronté à la misère à cette violence et on lui a donné en tout et pour tout une petite cuillère pour vider
ouais.
un océan
ouais. Ouais.
Le type reçoit des menaces son nom est tagué sur les murs.
C'est...
Et en fait, qu'est-ce qu'il a contre ça? Il a la désespérance d'une hiérarchie qui ne pense qu'à la carrière et la bienveillance du préfet, au lieu de penser à ces hommes et à ces femmes qui doivent lutter. Je vous assure, mais je ne sais pas comment ils font.
Ils sont en première ligne, ils font tout ce qu'ils peuvent. Dites, Dominique, je retiens quand même une phrase que vous avez dite. Quand vous dites « je suis arrivée à Limoges, j'ai eu l'impression d'un village », on entend un village paisible, c'est-à-dire on entend que vous aviez le sentiment d'être dans un espace paisible et que ça n'est plus le cas aujourd'hui. Dominique, restez avec nous. Il y a aussi Brahim qui nous appelle du Var. Bonjour Brahim.
Oui, bonjour.
Vous êtes chauffeur routier, alors du coup, je ne sais pas trop où est-ce que vous êtes à 6h46, sur les routes déjà ?
Je suis sur Nice, là.
D'accord, sur Nice. Brahim, est-ce que vous le constatez, vous qui roulez beaucoup aussi, est-ce que vous le voyez ou est-ce que vous le voyez autour de vous ?
Non, mais je le vois tous les jours, ce fléau, je le vois tous les jours. Moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on laisse faire les choses et puis que, comme disait l'auditeur juste
Dominique.
Avant... Dominique, la police n'a pas les pleins pouvoirs là-dessus. C'est toujours la même chose. On va arrêter un petit jeune qui va faire du deal ou quoi que ce soit. Le temps que le policier remplisse le rapport, il le voit passer devant la cour et il est libéré. À quoi ça sert de l'arrêter? Donc la police a les mains complètement liées et ils ne peuvent rien faire là-dessus. Maintenant, je dis toujours, je l'ai toujours dit, faut taper dans le portefeuille des gens.
Le ça gamin veut dire quoi, taper dans le portefeuille des gens, Brahim?
C'est-à-dire que si le gamin, il fait une connerie, on va aller voir les parents. Les parents, s'ils touchent des aides ou quoi que ce soit, on leur supprime leurs aides.
Il y a un grand débat là-dessus, hein, parce que c'est vrai que régulièrement, il y a des maires qui disent qu'il faut le faire. C'est le cas du maire de Nice, par exemple, hein, Christian Estrosi, qui avait régulièrement dit « s'il y a des problèmes de délinquance chez les enfants, on va taper au portefeuille des parents ». Et il a d'ailleurs mis en place une sorte de partenariat entre la ville et le palais de justice pour que ça puisse être fait ensemble avec toutes les allocations de la ville qui puissent être supprimées. Brahim, j'ai encore une question. Quand vous dites « je le vois partout, je le vois tous les jours », vous le voyez comment? C'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez? Quelles sont les scènes que vous voyez?
À l'heure là, actuelle, à 7h du matin, vous les voyez pas. Par contre, à partir de 15h jusqu'à des 3-4 heures du matin, vous les voyez, ils sont en stand-by dans les rues et ils attendent que le client il arrive. Mmh. Et la police passe mais ne peut rien faire. Parce que moi qui ai aussi des amis qui sont dans la police, qui me disent mais on va l'arrêter et même pas une heure après, il est dehors. Alors à quoi ça sert de l'arrêter ?
Alors justement, sur Nîmes, Brahim et Dominique, j'entends parfaitement ce que vous dites et on se souvient de nombreux témoignages et je ne sais pas s'il nous entend ce matin, mais il y a un policier qui est un auteur fidèle d'RMC qui nous appelle régulièrement, qui travaille sur la lutte contre le trafic de drogue à la frontière du Luxembourg et qui nous dit régulièrement à quel point c'est dur, ils sont une poignée d'hommes à lutter dans un endroit où tout passe. Mais Nîmes, en l'occurrence, quand on regarde ce qui s'est passé à Nîmes et la fermeture de cette médiathèque, c'est dans un quartier qui est pourtant un quartier, comme on cite, de reconquête républicaine. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des renforts de police. 93 opérations de police depuis le mois de janvier, 43 personnes interpellées, 138 jugements au palais de justice pour 66 personnes condamnées à des peines qui vont jusqu'à 8 ans de prison. Ce qui est fou, c'est que le quartier dans lequel cette médiathèque a fini par être fermée parce qu'ils n'y arrivent plus, c'est pourtant un quartier sur lequel il y a beaucoup d'argent qui a été déversé, il y a beaucoup de réformes qui ont été faites. Quand on dit quartier de reconquête républicaine, ça veut dire concrètement qu'on y a mis des sous, qu'on y a mis des moyens et que pourtant on n'y arrive pas. Vous entendrez tout à l'heure à 8h10 le maire de ce quartier qui veut effectivement dire combien c'est difficile de lutter. Et quand on imagine que cette médiathèque qui était déjà un des derniers espaces de service public qui demeurait dans ce quartier et qui est contrainte de fermer jusqu'à nouvel ordre, il n'y a même pas de date pour la reprise. Merci à Brahim et Dominique. Et puis pour aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille le replay de l'interview de Jérôme Pierra, qui était mon invité vendredi. C'était absolument passionnant. C'est ce spécialiste du grand banditisme. Vous le retrouvez dans les podcasts du Face à Face. C'était donc vendredi dernier et c'est disponible sur l'application RMC. Il est 6h49.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, il y aura le portrait du jour, Nicolas.
Et c'est Françoise Gillot, une des femmes de Picasso. Elle vient seulement de mourir hier à l'âge de 101 ans.
Et vos histoires, Charles?
Je vous emmène à l'hôtel, au room service, plus précisément avec les commandes les plus insolites des clients.
Ah, mais j'ai toujours voulu savoir. À tout de suite.
Dans un instant.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Il est 6h51, merci d'écouter RMC. Voici le programme de la suite d'Apolline Matin. À 7h15, on installe des gigafactories de batteries en France. On est super fiers pour produire des voitures électriques. Sauf qu'en fait, il nous manque des semi-conducteurs. Donc les voitures électriques, elles sont à l'arrêt. La production de la voiture Zoé Renault est à l'arrêt. Vous entendrez, on ira donc dans l'usine à 7h15, 7h20. L'économie, c'est quoi le programme aujourd'hui?
On revient sur ce travail de l'Institut des politiques publiques qui montre que les Français les plus riches sont moins lourdement taxés que le reste de la population.
Et puis 7h40, des bonnes nouvelles avec des avancées majeures dans la lutte contre le cancer. Des vaccins arrivent. On verra ça avec le professeur David Kayat. Et puis 8h30, y aura-t-il un vote à l'Assemblée nationale sur la proposition d'abrogation de la réforme des retraites? La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, sera mon invitée dans le face-à-face à 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Le portrait du jour, Nicolas, c'est Françoise Gillot. C'est l'une des femmes de Picasso. Elle vient de mourir à 101 ans.
Oui, Picasso a eu au moins 7 femmes importantes dans sa vie. Fernande, Eva, Olga, Thérèse, Dora, Françoise et Jacqueline. Françoise Gillot était l'avant-dernière, la seule qui était encore vivante et aussi la seule qui l'a quittée. Ils ont vécu ensemble de 1944 à 1953.
La seule qui est quittée, Picasso. Je veux bien préciser pour que Laura le comprenne bien.
La seule qui a dit non, voilà. Pour être clair. Ils ont vécu ensemble de 1944 à 1953. À leur rencontre, c'était une jeune bourgeoise parisienne, un peu révoltée. Lui était déjà un grand maître. Elle avait 23 ans, lui 63, et elle lui a sauté dessus en se déshabillant dans son atelier dès leur deuxième rencontre. Il s'était d'ailleurs étonné qu'elle ne lui résiste pas plus. Mais une dizaine d'années plus tard, et après avoir eu 2 enfants avec lui, elle va donc finalement lui résister. Et lui dire non. Quand elle lui annonce qu'elle s'en va, Picasso lui dit « On ne quitte pas quelqu'un comme moi ». Elle lui répond « Si ». et elle le fait. Picasso ne supporte pas qu'elle parte avec un autre peintre, bien plus jeune que lui. Il fait vider par des déménageurs leur maison de Mougins et il lui vole les portraits d'elle que Matisse avait réalisés. Par la suite, elle écrit un livre pour raconter tout cela et Picasso va tout faire pour l'interdire. Il fait signer des pétitions d'intellectuels. Il obtient le soutien du Parti communiste français parce qu'il était l'adhérent le plus célèbre. Mais le livre sortira tout de même. Il s'appelle « Vivre avec Picasso ».
Picasso qui va aussi utiliser son immense prestige pour briser la carrière de Françoise Gillot.
Oui, parce qu'elle était peintre, elle aussi, depuis toujours. Mais Picasso va demander à tous les galeristes de Paris de refuser de l'exposer. Elle et son nouveau mari, Luc Simon, qui est peintre lui aussi, boycotté lui aussi. Donc Françoise Gillot a ensuite eu un troisième enfant avec Luc Simon. Puis elle a déménagé aux États-Unis. Elle a encore vécu une grande histoire d'amour avec un scientifique américain qui était le père du vaccin contre la polio. Elle vivait depuis à Manhattan. Il y a encore quelques années, elle peignait jusqu'à 12 heures par jour. Ce qui est tout de même assez fascinant dans cette histoire, c'est de penser que cette femme qui est morte hier a eu un mari, Pablo Picasso, qui est né en 1881, c'est-à-dire lorsque Victor Hugo était encore vivant.
Voilà, c'est vraiment une histoire qui traverse le siècle. Qui nous paraît si moderne, mais qui a pris ses racines il y a bien longtemps. Il est 6h54 et c'est les histoires de Charles.
Les histoires de Charles.
Vous nous emmenez à l'hôtel ce matin, Charles, avec les demandes les plus insolites auprès du room service.
Oui, étude menée par le site de réservation hôtel.com à travers près de 500 établissements dans le monde et qui confirme d'abord le regain d'intérêt pour le room service depuis la pandémie, plus 40% de commandes en moyenne dans les hôtels. Alors, qu'est-ce qu'on commande au room service? Eh bien, c'est le burger qui est le plat le plus populaire dans le monde devant le club sandwich. Et la pizza, voilà pour le.
Des pénés, moi je pensais plutôt, non? Non,
j'ai pas les pénés sur le podium, non. Mais en fait, en France, on fait figure d'exception, puisque la commande numéro un au room service est la planche de charcuterie et de fromage, voilà, petit cocorico. Mais
les hôteliers. Il n'y a pas de saumon fumé.
Il n'y a pas saumon fumé non plus, Manu.
Saumon blini. Ah, Manu est déçu.
Vous lisez toute la carte, si vous voulez. En tout cas, les hôteliers interrogés.
On va vous prendre une petite salade César.
Oui, bah je note, ça arrive tout de suite en fin de mois.
Très bien, la César. Hein, à toute heure, la César.
Les hôteliers interrogés racontent aussi les demandes les plus absurdes de leurs clients. Par exemple, celui qui réclame une omelette, mais sans œufs.
C'est pas mal, ça.
Celui qui veut de l'eau, mais allégée, de l'eau light. Mmh. Celui qui commande du bison ou encore un bol de glace fondue. Mais mon préféré, c'est ce client qui a demandé à l'hôtel de lui cuisiner le poisson qu'il venait d'aller pêcher lui-même. Qui est allé
c'est génial.
Voilà, je viens de pêcher.
Ils l'ont fait ou pas?
Non, ils ne l'ont pas fait.
Oh, c'est dommage.
Simplement, non, ça ne respectait pas toutes les normes sanitaires à ce moment-là. En tout cas, les établissements multiplient désormais les offres parfois insolites en room service. Dans cette étude, on nous cite ce room service qui propose des concerts privés, voilà, des musiciens qui viennent jouer dans votre chambre ou encore à Londres. Ce maître d'hôtel, Manu, ça va beaucoup te plaire, dédié à la livraison de Lego. À toute heure du jour ou de la nuit, un petit coup de fil.
Une petite insomnie, un petit Lego.
Et le petit Lego qui débarque dans ta chambre.
Ça, c'est bien. Non, c'est vraiment, c'est une spéciale Manu.
Oui, j'ai bien senti. Saumon et Lego, c'est la commande pour Manu le Chypre.
Il est 6h56. C'était donc les histoires de Charles. Dans un instant, la météo et le journal. À la une du journal de 7h, vous l'entendrez. On partira à Valence. Deux écoles fermées dans un quartier lié au trafic de drogue. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et 7h, excellent réveil sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal, Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Deux écoles toujours fermées ce matin à Valence après des menaces de mort rapportées par des parents dans un quartier connu pour le trafic de drogue. La mobilisation en forte baisse pour la 14e journée d'action contre la réforme des retraites. En attendant le point final, certainement demain à l'Assemblée. Et puis Karim Benzema, ça y est, on le sait, qui s'envole en Arabie Saoudite. Contrat de 3 ans chez le champion saoudien.
Et puis des vaccins contre le cancer qui arrivent et suscitent beaucoup d'espoir. Le professeur Kaya nous en parlera en direct. Il sera dans ce studio à 7h40. Deux écoles resteront fermées aujourd'hui à Valence.
Oui, on vous en parlait dès hier matin sur RMC. Des parents d'élèves disent avoir été menacés de mort carrément par des personnes qui auraient même exhibé des armes dans le quartier du Plan, connu pour être un important point de trafic de drogue et de violence. C'était lundi. Vincent Chevalier nous raconte quel est le climat sur place pour RMC.
Calme plat dans le quartier, quelques jeunes postés aux différentes entrées de la cité surveillent les allées et venues. Certains postés à 50 mètres des écoles, portes fermées, rideaux baissés. Toute la journée, les deux établissements concernés n'ont pas accueilli les 500 enfants. Leurs parents, encore sous le choc, n'ont pas voulu les déposer. Et la quarantaine d'enseignants, comme les directeurs, ont exercé leur droit de retrait. Pas de cours ce mercredi, le retour en classe est donc prévu pour demain. Un retour en toute sécurité, selon Pascal Clément, directeur académique de la Drôme.
avec la mise en place d'une cellule d'écoute dans chacune des écoles. L'équipe mobile de sécurité académique sera présente également. Au-delà de ça, bien évidemment, nous apportons aussi des réponses éducatives et nous travaillons notamment avec la ville à une prise en charge globale du temps de l'enfant pour que les élèves retrouvent un cadre serein.
La police sera également présente de façon plus soutenue pour sécuriser les entrées et les sorties d'école.
Il est 7h02 sur RMC. Il y avait entre 281 000 manifestants dans la rue hier selon le ministère de l'Intérieur et plus de 900 000. Voilà ce que nous disent les syndicats pour la 14e journée d'action de mobilisation contre la réforme des retraites, la plus faible depuis le début du mouvement en janvier dernier. Et un aveu de défaite dans la bouche de Laurent Berger de la CFDT.
On sait qu'au-delà des retraites, dont le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, avec cette inconnue de ce qui se passera jeudi à l'Assemblée nationale, la question du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question du logement, la question des conditions de travail, de l'évolution du travail, la question de la protection sociale vont être des questions centrales dans les semaines et les mois à venir. Et si on veut peser, il faut qu'on montre qu'on est fort. Et c'était aussi un peu l'objectif de cette journée.
La journée qualifiée de baroud d'honneur dans les journaux ce matin. En attendant demain, l'épilogue à l'Assemblée nationale où le sort de la proposition d'abrogation des 64 ans est en suspens. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, invitée de RMC ce matin, 8h30, a la possibilité de faire barrage avec cette fois l'article 40 de la Constitution. Cette proposition avait été retoquée en commission, c'était la semaine dernière. Et voilà ce qu'en pensent les manifestants dans la rue.
On attend depuis le début un vote. On a eu des débats tronqués et on n'a pas eu de vote.
Ils vont invoquer un article pour empêcher le vote au Parlement. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est très inquiétant.
On voit bien que ce gouvernement aujourd'hui ne respecte pas ce qu'on appelle la démocratie, à savoir, normalement, c'est par la voix que le peuple a donné à des députés que les choses doivent être examinées et eux, ils ne veulent toujours pas.
Je ne veux pas qu'on prenne l'habitude de prendre des décisions, quelles qu'elles soient, petites ou grandes, sans en référer aux députés. Donc pour moi, c'est un tournant au-delà du, à la rigueur des arguments concernant la réforme elle-même.
Le gouvernement a subi un revers, c'était hier à l'Assemblée, le budget 2022 retoqué. Il y a une coalition de l'opposition, le groupe Renaissance déplore un coup médiatique qui ne changera rien au quotidien des Français. Fin de citation. La validation du budget est normalement une formalité, mais ce n'est plus le cas depuis que le gouvernement n'a plus la majorité à l'Assemblée. On reparle ce matin du fonds Marianne, le fonds lancé au nom de la lutte contre le séparatisme après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty il y a 2 ans. Depuis, ce fonds est au centre des critiques et on apprend la démission du préfet responsable de ce fonds, Romain Houck, pour RMC. Un rapport accablant dénonce aussi un traitement privilégié pour une des associations bénéficiaires.
Oui, une association qui a touché 355 000 euros d'argent public dans le cadre du fonds Marianne. Sauf que ce rapport de l'inspection générale de l'administration parle à ce sujet de défaillance, d'un défaut de vigilance et même d'un traitement privilégié de la part du préfet Christian Gravel, chargé de ce fonds. Dans le détail, le rapport pointe seulement 8 articles publiés sur le site de l'association, bien moins que ce qui était prévu. 2, l'incapacité de son président d'attester de son activité malgré plus de 51 000 euros de revenus en 11 mois. 3, un appel à projet ni transparent, ni équitable. Bref, des conclusions accablantes pour le préfet Christian Gravel qui a finalement démissionné hier soir. Marlène Schiappa, à l'époque ministre déléguée à la citoyenneté, elle salue les conclusions de ce rapport qui, selon elle, ne la met pas en cause personnellement. La ministre qui sera entendue sur cette affaire par la commission d'enquête sénatoriale la semaine prochaine avant la publication d'un second rapport de l'inspection attendu pour la fin du mois.
Écoutez maintenant ce qui s'est passé pendant près d'un an dans un supermarché, un Intermarché du Pas-de-Calais. 3 caissières viennent d'être condamnées à des peines allant de 6 à 10 mois de prison avec sursis. Des caissières qui ne scannaient pas tous les articles quand leurs proches passaient en caisse des caddies à plus de 1000 euros qui étaient en fait encaissés à moins de 100. Lucille Pascanet du service police-justice à RMC était au procès hier au tribunal de Béthune et ces caissières ont expliqué avoir été prises dans un engrenage.
La première fois, elle ne fait passer que 2 articles sur les 3 de sa sœur à la caisse. Ça a marché, alors ensuite, je me suis laissée emporter par l'adrénaline, mais je n'aurais jamais dû faire ça, regrette-t-elle à la barre. Les 2 autres racontent avoir suivi. Nourriture, jeux vidéo, alcool, tout devient presque gratuit pour elle et une 20aine de proches. L'une d'entre elles organise carrément un baptême avec les courses volées. Certaines évoquent des problèmes financiers, oui, mais si elles volent, c'est plutôt par opportunisme et pour faire plaisir, être, je cite, une bonne fée. Et une fois commencé, impossible d'arrêter. Comme elle passe mes courses, je dois passer les leurs, estime-t-elle à la barre. Pendant 10 mois, le stratagème perdure, mais à la fin, il faut payer la facture et le préjudice est énorme, selon l'avocat d'Intermarché. 16 000 euros pour un seul mois d'octobre. Toutes trois ont été licenciées. La première a écopé de 10 mois de prison avec sursis, les deux autres de 6 et de 10 000 euros d'amende.
Un nouveau seuil a été franchi, voilà ce que dit la France au lendemain de la destruction partielle d'un grand barrage dans le sud de l'Ukraine, provoquant d'importantes inondations. 40 000 personnes menacées et l'Ukraine et la Russie qui s'accusent mutuellement. Direction l'Arabie Saoudite pour Karim Benzema. Contrairement à ce qu'il disait la semaine dernière, l'attaquant français vient de signer 3 ans à Al Ittihad, le grand club de la ville de Jeddah, champion en titre. Et écoutez-le, il dit en arabe qu'il a hâte dans une vidéo promotionnelle de son nouveau club. Voilà, ce départ en Arabie Saoudite fait réagir les supporters du Real Madrid ce matin, le Real où il vient de passer 14 saisons.
Ce qui me gêne, ce n'est pas qu'il quitte le Real Madrid, mais qu'il aille dans un championnat inférieur au nôtre, surtout en dehors de l'Europe, ce qui est plus ou moins une retraite. Pour moi, clairement, il prend sa retraite en partant du Real.
C'est une offre que personne ne peut refuser et nous aurions fait la même chose si l'occasion s'était présentée à nous. C'est impossible de rivaliser avec un tel salaire.
Oui, puisqu'aux dernières nouvelles, il était question d'un contrat à 200 millions d'euros sur 2 ans, mais cette somme n'a pas été confirmée.
RMC Roland-Garros 2023.
Et cette très grosse impression de l'Espagnol Carlos Alcaraz qui a écrasé hier soir en 3-7 le grec Stefanos Tsitsipas. On aura donc vendredi le choc tant attendu en demi-finale contre le Serbe Novak Djokovic qui lui a eu besoin de 4-7 pour battre le Russe Karen Khachanov.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 7h07 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Apolline.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'Elio.
Elio a 6 ans, c'est un petit garçon plein de vie, souriant et coquin. Notre petite crapule, comme le décrivent ses parents. Mais Elio, c'est aussi un enfant autiste sévère qui ne parle pas, qui ne se développe pas comme les autres. Yannick, son papa.
C'est l'attention constante. J'irais Elio, on peut pas le quitter des yeux une minute. Il a des problèmes pour communiquer, donc il faut deviner, il faut le comprendre. Et tout devient difficile. Je vais apprendre à être propre, c'est compliqué. Lui apprendre à pointer du doigt, c'est compliqué. Toute la vie de famille est chamboulée.
Jusqu'à présent, il a fait partie des chanceux. Pourtant, Elio, il était dans une classe de maternelle spécialement dédiée à son handicap à Colmar. Mais l'année prochaine, c'est fini. Il doit entrer au CP. Il n'y a plus de place pour lui.
En France, les structures pour accueillir et introduire les enfants comme Elio manquent cruellement.
Ouais, lancé il y a 10 ans, on compte moins de 3000 places dans des unités autisme à l'école, maternelle et élémentaire, alors que 8000 enfants autistes naissent chaque année en France. C'est une naissance sur 100. Les parents d'Elio nous ont écrit pour alerter sur cette situation. À la rentrée, leur petit garçon ne sera scolarisé que 2 jours par semaine dans une école classique mais donc non adaptée, avec une accompagnante sans formation, et passera l'autre moitié de la semaine dans un IME, un institut médico-éducatif.
Il a quand même le droit d'être en contact avec d'autres enfants de son âge. Et pour évoluer, il en a besoin. C'est pas un mode de garde qu'on demande, en fait, nous. Moi, je veux qu'on me propose un réel projet pour l'emmener au maximum de ses capacités. Moi, je demande pas à ce que mon fils passe le bac. Je sais qu'il passera jamais le bac. Mais s'il peut juste déjà s'adapter à cette société-là et que les gens s'adaptent aussi un minimum envers lui, ce sera déjà parfait.
Comment est-ce qu'on peut aider Elio et ses parents ?
D'abord en donnant la parole à ses parents, c'est ce que nous faisons, et en demandant des comptes aussi au pouvoir public, c'est ce que l'on a fait. La ministre chargée du handicap nous a reçus dans son bureau. Geneviève Darrieussecq annonce en exclusivité pour RMC le déblocage de 2 milliards d'euros pour l'accompagnement des porteurs de handicap en général, dès l'année prochaine et jusqu'à 2030, pour créer notamment de nouveaux IME, ces instituts médico-éducatifs.
Nous continuons de déployer tout moyen pour faire en sorte d'accompagner les familles, ou dans des IME comme c'est indiqué, ou à l'école de la République. Et de très nombreux IME finiront par rejoindre l'école de la République aussi, puisque nous avons en projet de déployer dans les 5 prochaines années 100 IME dans l'éducation nationale, dans les collèges ou dans les écoles, afin de pouvoir justement rapprocher ces enfants.
Ces 2 milliards d'euros débloqués sur 5 ans bénéficieront à 20 départements prioritaires. La Seine-Saint-Denis, le Nord, la Loire-Atlantique, l'Eure, tous les départements ultramarins, entre autres. Malheureusement pour Elio, le Haut-Rhin n'en fait pas partie. Et surtout, aucun effort du gouvernement n'est fait spécialement sur la question de l'autisme. C'est ce que demandaient les familles. Mais ce que souhaitait avant tout, en tout cas, Yannick, le papa d'Elio, c'est que l'on parle de lui et de son combat pour aller à l'école. La rentrée scolaire, c'est dans 3 mois. On va continuer de les accompagner.
Et c'est heureusement chose faite. Et vous ne les laisserez pas tomber. RMC pour vous, @rmc.fr. C'est l'adresse d'Amélie.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
La voiture électrique, en France, on aura des batteries, mais on n'a toujours pas de semi-conducteurs. Résultat, la production de Renault Zoé est à l'arrêt et on en parle dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Bonjour Fabien Gloguen, vous êtes délégué syndical FO pour le groupe Renault et avec vos collègues de l'usine de Flins dans les Yvelines qui produisent la Zoé, vous vous retrouvez pour certains à l'arrêt, vous allez devoir arrêter le travail. On n'arrête pas de parler de la voiture électrique, on est tous hyper fiers de produire la Zoé, j'imagine que vous en êtes particulièrement fiers vous. Et puis en fait on vous dit qu'il va falloir s'arrêter dans les faits, on ne va pas pouvoir la produire.
Bonjour, bah oui, en effet. En fait, c'est toujours la raison aboutie par la direction du site de Flins. C'est sur les composants, la pénurie des composants électroniques. Donc en effet, il y a encore des perturbations. Il y avait eu, on va dire, sur cette pénurie, un mieux quand même, un regain de mieux sur les sites de fabrication en France, aussi bien chez Renault que chez...
On avait l'impression que cette crise, c'est-à-dire qu'il y avait été notamment la suite du Covid, du fait que tout avait été à l'arrêt, qu'il n'y avait plus du coup de mondialisation, il n'y avait plus de transport, et que n'avait pas reçu ces semi-conducteurs qui sont pour la majorité fabriqués en Asie, à Taïwan, en Corée, on avait quand même l'impression que cette crise, elle était derrière nous.
Il y a un embellissement. On a vu, on va dire, ce que ça engendrait comme impact, on a vu, sur l'économie, tout simplement, sur notre industrie automobile, en Europe et nous, en France. Donc, il y a eu une embellie, mais oui, on est toujours perturbé. Il faut savoir, il n'y a pas que le site de Flins qui est perturbé par ça. Là, eux, ils ont une grosse perturbation, le site de Flins, mais il faut savoir que d'autres sites, ça arrive parfois à Sandouville ou sur d'autres sites, chez Electricity dans le Nord, qu'on ait encore des perturbations liées à cette pénurie. Il faut savoir que Renault a signé un partenariat récemment avec MS Électronique pour, on va dire, amoindrir l'impact, mais il y a toujours un impact, moindre, mais il y a toujours.
Pour tenter de produire ici, en France ou en Europe, des semi-conducteurs et ne pas être intégralement dépendant, en effet, des usines asiatiques. À Flins, c'est l'usine qui va être fermée donc pendant 3 semaines au mois de juin et 2 jours en juillet. Ça veut dire que pendant 3 semaines, il n'y aura pas de Zoé produite. Il y a de moins en moins de voitures neuves qui sortent de l'usine de Flins.
Tout à fait, c'est ça. Bon, faut savoir que la direction générale avait quand même annoncé qu'à terme, la Zoé ne sera plus fabriquée à l'horizon 2024-2025. Mais toujours est-il, elle est quand même dans le top 10 des ventes des véhicules électriques. Et effectivement, la question se pose. C'est plus qu'on va monter crescendo dans les gammes, aussi bien sur la Zoé ou d'autres. Il va falloir très vite. Et là, Pauline de Malherbe, on va se reposer la question ensemble de la souveraineté qu'on n'a toujours pas en Europe. Et nous, ce qui nous concerne national. Quoi. Donc, il y a des partenariats qui sont entrepris. Avec Qualcomm, MST, je vous dis, électronique, mais c'est pas suffisant avec la montée en cadence qu'on va dire, et vous savez très bien qu'il y a quand même 30% plus de composants électroniques dans les véhicules électriques. Ça, c'est une donnée importante aussi. Donc effectivement, plus tard on sera souverain, plus tard on aura du mal, on va dire, on sera toujours perturbé. Et ça, il va falloir très vite arrêter cette hémorragie, on va dire.
Et vous avez raison d'alerter, et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça vienne aussi de vous, que ça vienne du ministre de l'économie, que ça vienne en fait de partout, c'est-à-dire que vous qui êtes en première ligne, si je puis me permettre, puisque vous êtes vraiment sur les lignes de production de ces voitures électriques, mais de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne en quelque sorte, il y a le ministre de l'économie qui, vous le disiez la semaine dernière, a lancé non seulement les gigafactories de fabrication de batteries électriques, mais aussi les partenariats pour fabriquer des semi-conducteurs, ces fameux composants électroniques en Europe, sauf que pendant le même temps, on nous dit, on met le paquet sur les voitures électroniques et on se retrouve, c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on vous donne la parole ce matin, on se retrouve avec des lignes de production d'une voiture aussi emblématique que la Zoé, donc une voiture électrique, qui ne sortent pas. Un mot quand même sur votre situation sociale. Est-ce que ces jours où la production va être à l'arrêt, je le rappelle, il y a quand même 3 semaines de fermeture de l'usine, de la ligne de production de Zoé en juin et 2 jours en juillet, est-ce que vous serez payé correctement?
Bon, on va être clair. Il y a 2 choses. Oui, on est toujours payé. On profite toujours de l'accord que nous, FO, on a signé dans le groupe Renault. L'accord, c'est ça, contrat de solidarité d'avenir qui porte bien son nom avec, on va dire, un salarié pose une journée pour 5 jours de chômage, il est payé à 100%. Donc ça, on va dire, pour les Renault, c'est, par contre, on en revient toujours au même problème sur les intérimaires. Là, faut savoir que la direction de Flins a annoncé qu'à la mi-juillet, à la semaine 28, on allait passer de... Alors là, après, c'est peut-être plus lié aux composants, c'est peut-être lié en tant que tel. Il faut savoir que la Zoé, c'était le premier véhicule utilitaire, hein, d'où qu'il est emblématique. On va passer de 150 véhicules jour à flin à 90 véhicules jour à partir du mois de juillet de production. Et ça, par contre, c'est un impact. Nous, il faut, c'est ce qu'on dit, c'est un impact. Et oui, malheureusement, quand c'est comme ça, il faut savoir sur la ligne de la fabrication Zoé, parce que vous savez très bien que l'usine de flin s'est réorientée vers une nouvelle, on va dire structure avec la refacturie, hein, l'économie circulaire. Mais toujours sur la ligne de production Zoé à flin, il faut savoir, ça concerne donc un peu plus de 350 salariés Renault, mais il y a quand même près de 250 intérimaires qui travaillent sur ces chaînes de fabrication encore à l'usine de flin.
Et qui forcément, eux, ben, n'ont pas exactement les mêmes contraintes et les mêmes solutions que vous. Fabien Gloagen, en tout cas, merci d'avoir témoigné ce matin. Donc, depuis le siège de FO, vous êtes délégué syndical FO pour le groupe Renault et vous alertez donc la chaîne de production de la Zoé qui va donc être interrompue pendant 3 semaines en ce mois de juin. Il est 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Des vaccins, des pilules, les traitements contre le cancer sont en plein développement et il y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour les malades. On en parle en direct à 7h40 avec le professeur Kayat, fondateur de l'Institut National du Cancer, qui sera dans ce studio. Mais avant cela, il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre et puis Arnaud Demange qui pirate le 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Emmanuel Le Chypre, l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Manu, les Français les plus riches sont proportionnellement moins lourdement taxé que le reste de la population.
Et oui, c'est une nouvelle contribution au débat très vif sur la fiscalité des riches que nous propose l'Institut des politiques publiques à travers une nouvelle étude en recoupant pour la première fois les déclarations de revenus des particuliers et les déclarations fiscales des entreprises. On parle de 37 800 foyers aisés qui touchent plus de 627 000 euros annuels. Eux, leur taux d'imposition est de 46%. Mais plus on va vers ce qu'on appelle les ultra riches, eh bien plus ce taux diminue au fur et à mesure que les revenus progressent, jusqu'à atteindre 26% seulement de taux d'imposition pour les 75 foyers fiscaux les plus fortunés.
Et comment on explique cette baisse de la pression fiscale ?
Eh bien par la composition des revenus, ceux des Français les plus riches proviennent pour l'essentiel des bénéfices qui restent à leur société une fois tout payé, bénéfices qui sont donc soumis à l'impôt sur les sociétés plutôt qu'à l'impôt sur le revenu. Or, le taux de l'impôt sur le revenu, il est plutôt autour de 59% pour ces niveaux de revenus, alors que le taux d'imposition sur les sociétés est bien plus bas, 33,3%, parce que l'étude, c'est des chiffres de 2016. C'est les derniers dont on dispose, mais on peut dire que le phénomène a dû s'aggraver, puisque maintenant, le taux d'imposition sur les sociétés, c'est 25%. À noter que c'est un phénomène qui concerne tous les pays européens.
Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut remettre en place l'impôt sur la fortune ?
Bah non, dit l'Institut des politiques publiques, parce qu'en 2016, il y avait l'impôt sur la fortune. Ça ne corrigeait pas cette inégalité de pression fiscale. Ils disent non, il faudrait aller chercher du côté de ces revenus qui restent dans les sociétés de ces ultra riches qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes, il faudrait les taxer davantage.
Emmanuel Le Chypre, et à 7h25, on accueille qui ? Arnaud Demange.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demange pirate le 32-16.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
Ce qui fait réagir ce matin, c'est l'état de santé du pape. Bah oui, il a de nouveau été opéré ou hospitalisé hier.
Hospitalisé, heureusement. Mais les catholiques du monde entier sont très inquiets. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au souverain pontife ? Parce qu'on ne sait pas très bien. Et Daniel de Chambéry a une réponse. Bah, il lui est arrivé qu'il a 86 ans et qu'il passe son temps dans les bidonvilles à embrasser des lépreux. Alors évidemment, on tombe malade. Hein. Ça se tient comme raisonnement. Hein. Si on allait lécher des barres de métro, on n'irait pas bien. Lilibet de Mésidon nous dit « Ça ne doit pas être évident de soigner un pape. On l'accueille, on lui dit « Alors relevez votre soutane, votre sainteté, on va prendre votre température. Comment sont vos selles en ce moment ?» On doit se sentir très irrespectueux. Mais on espère qu'il sera en forme pour septembre. Parce que vous savez ce qui va se passer en septembre.
Il vient en France.
Il vient célébrer une messe. Où ça ? Au Stade Vélodrome. Ça va être formidable. Il a déjà prévu de s'adapter. Hein. Frères et sœurs, faites un maximum de bruit pour le pape François. Salut les Marseillais. Allez, tous ensemble. Alléluia, alléluia, allé, alléluia. Satan, Satan,
On t'encule. Les ennemis de l'OM, c'est les Parisiens. Les ennemis du Christ, c'est les pharisiens. Alors tous ensemble, Parisiens, va niquer ta mère. Sur la canne bière. Moi, je vais assister à la messe en question.
Ah ouais,
j'invite Charles à venir avec moi. Oui. Entre amateurs de sport, je pense qu'on va se régaler. On vous racontera.
Des de Jules au premier rang.
C'est clair. Avec le pape François. Arnaud Demanche, à tout à l'heure. 8h20 pour l'heure, il est 7h28 et on se retrouve dans un instant pour la météo du journal. Il est 7h30, vous êtes bien sur RMC, le journal Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'inquiétude en Ukraine ce matin après la destruction d'un barrage. 40 000 personnes sont menacées par les eaux qui s'écoulent dans la vallée. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Pôle emploi va devenir France Travail. C'est aujourd'hui que l'exécutif dévoile son projet de loi plein emploi. Et puis à Roland-Garros, une nouvelle coqueluche. Carlos Alcaraz s'est qualifié hier pour les demi-finales du tournoi en écrasant Tsitsipas. En 3-7, il affrontera Djokovic en demi-finale.
Kiev et Moscou se renvoient la balle au lendemain de la destruction partielle d'un barrage dans le sud de l'Ukraine.
40 000 personnes, dont 17 000 civils ukrainiens, sont menacés par la montée des eaux. Le pic de crue est attendu ce matin, obligeant de nombreuses personnes à quitter leur logement à la hâte. C'est le cas notamment dans la région de Kherson, Martin Bourdin.
D'énormes sacs portés à bout de bras pour sauver ce qui peut encore l'être. Hier après-midi, dans les rues inondées de ce quartier de Kherson, Oksana et son conjoint ont multiplié les allers-retours jusqu'à leur maison.
Dans la maison, il y a de l'eau partout, jusqu'aux hanches. Le frigo flotte, la nourriture, les fleurs aussi. Je ne sais pas quoi faire.
Dans le Dniepr, juste derrière la maison d'Alexander, un toit de maison est emporté par le courant.
C'est vraiment critique. Si l'eau monte encore d'un mètre, on va perdre notre maison. On essaie de sauver ce qui a le plus de valeur.
D'après Kiev, plus de 40 000 personnes risquent de se retrouver en zone inondée, dont 25 000 sur le territoire contrôlé par la Russie. Après avoir passé les trois dernières nuits à l'abri des bombes, Anna a pris un bus puis un train pour se mettre en sécurité.
La route était complètement inondée, le bus était bloqué. On nous a emmenés au seul point haut que le bus pouvait atteindre et c'est de là qu'on a été pris en charge.
La destruction du barrage a aussi réveillé les inquiétudes autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, 150 km en amont. L'eau utilisée pour refroidir les réacteurs est puisée dans le fleuve dont le niveau baisse au nord du barrage. Il n'y a pas de danger immédiat, a toutefois réagi l'Agence internationale pour l'énergie atomique hier.
Et l'Union européenne promet à Kiev assistance et aide humanitaire nécessaire. Elle sera votre invitée, Apolline, à 8h35 ce matin. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, doit annoncer aujourd'hui si elle va censurer ou non le texte visant à abroger la réforme des retraites déposée par le groupe Liot, une réforme qui ne mobilise plus beaucoup. Entre 281 000 selon les autorités et 900 000 personnes selon les syndicats ont manifesté hier en France. C'est beaucoup moins que le 1er mai dernier. Le gouvernement dévoile aujourd'hui son projet de loi plein emploi, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le texte vise à rebaptiser et transformer l'agence Pôle emploi en France Travail avec un objectif très clair, Cyprien Présil, atteindre le plein emploi d'ici la fin du quinquennat.
Cibler les Français les plus éloignés du travail, voilà l'objectif du gouvernement pour parvenir au plein emploi. Et pour cela, il compte s'appuyer sur France Travail, le successeur de Pôle emploi, avec une promesse, des conseillers plus disponibles, un suivi plus personnalisé à destination des chômeurs, donc, mais aussi désormais des bénéficiaires du RSA qui, eux, pour continuer à percevoir leurs allocations, devront réaliser jusqu'à 20 heures d'activité par semaine, ni du travail gratuit, ni du bénévolat obligatoire, Jure Matignon, mais plutôt de la formation et de l'immersion en entreprise. Enfin, le gouvernement veut lever l'un des principaux freins à la reprise du travail pour que les parents demandeurs d'emploi arrivent plus facilement à faire garder leurs enfants. Ce seront désormais les mairies qui devront mieux les aider.
Présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, le texte sera étudié en juillet au Sénat. Le Sénat qui entérine une hausse inédite du budget de la justice, 11 milliards d'euros pour 2027. Il est 7h34 sur RMC. Marseille n'est pas la seule ville de France gangrénée par le trafic de drogue et les règlements de compte. Le phénomène s'invite dans les villes moyennes, à Valence, dans la Drôme. Deux écoles situées à proximité d'un point de deal dans le quartier du Plan resteront fermées ce matin après des menaces de mort proférées à l'encontre de parents d'élèves et de professeur. À Nîmes, c'est une médiathèque qui a baissé le rideau pour des raisons similaires sur décision du maire de la ville. L'élu explique que les 18 agents du centre culturel sont régulièrement menacés par les trafiquants, des agents qui ont, Estelle Henry, fait valoir leur droit de retrait.
3 ans que des agents de la médiathèque signalent les intimidations et les menaces dont ils sont victimes. Marie Calençon, déléguée du personnel sud à la mairie de Nîmes.
Il y a eu énormément d'alertes qui ont été écrites, qui n'ont pas entraîné de réponse. En fait, ce droit de retrait, ils l'ont un peu exercé comme la dernière façon de s'exprimer.
Une insécurité grandissante et un service public clairement menacé. Seul un bureau de poste des écoles et la médiathèque résistaient jusqu'à présent. Alors forcément, Alain Longeas, président du comité de quartier de Pisvin, est indigné par cette fermeture.
C'est pas possible de fermer une médiathèque comme ça. Je pense qu'il y avait d'autres solutions. On aurait pu mettre la police municipale aux sorties et aux rentrées des employés.
Des trafiquants qui n'hésitent pas à contrôler les allées venues des habitants. Janie a enseigné pendant 20 ans au collège du quartier Pisvin. Au fil des années, elle a vu son visage changer.
Il y avait des violences, il y avait des deals, mais beaucoup moins. Et donc là, le problème, c'est qu'on dirait qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. J'imagine mes petits élèves là, de 10 ans, 11 ans, qui passent au milieu de tout ça, qui voient et qui souffrent. Parce que qui est-ce qui souffre le plus? C'est la population du quartier, 12 000 habitants. Il n'y a pas de commissariat. Mais c'est la folie.
Pour l'heure, la mairie indique que la médiathèque restera fermée jusqu'à nouvel ordre.
La mer de glace menacée l'été prochain en Arctique, rapport accablant publié hier par des chercheurs qui parlent d'une dizaine d'années d'avance par rapport aux prévisions. Au revoir Madrid, bonjour à l'Ittihad. Après avoir fait ses adieux au Real en catimini lors d'une cérémonie éclair de moins de 30 minutes hier, Karim Benzema a paraffé un contrat de 3 ans avec le club saoudien d'Al-Ittihad. On prend maintenant la direction de la Porte d'Auteuil.
RMC Roland-Garros 2023.
La terre battue de Roland Garros à son nouveau chouchou Carlos Alcaraz a écrasé Tsitsipas hier en 3-7, 6-2, 6-1, 7-6. Dans les pas de son idole Rafael Nadal, l'Espagnol numéro 1 mondial, s'offre Anthony Reich une première demi-finale à Paris.
Et dire que sans un léger relâchement dans le troisième set, il était en train de ridiculiser Stefanos Tsitsipas, seulement cinquième joueur mondial. À tout juste 20 ans, le niveau de jeu de Carlos Alcaraz est effarant et rappelle évidemment un certain Rafael Nadal. Depuis le début du tournoi, Alcaraz martyrise ses adversaires par sa puissance et sa défense exceptionnelle. Il maîtrise également tous les coups du tennis comme l'amorti qui a fait exploser Tsitsipas. Vendredi, l'Espagnol va jouer pour la toute première fois une demi-finale à Roland-Garros face à peut-être ce qui se fait de mieux, Novak Djokovic. Reste à voir si le Serbe, en quête d'un 23e titre du Grand Chelem à 36 ans, a les armes pour stopper la machine espagnole.
Et chez les dames, Muchova et Sabalenka se sont qualifiées, elles, pour le dernier carré. Des débris d'objets volants non humains collectés par les États-Unis depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'affirme un ancien membre du Pentagone, lanceur d'alerte jugé sérieuse. Ce dernier a déposé une plainte devant le Congrès américain pour dissimulation aux élus et au public. Aucune preuve, cependant, ne permet à cette heure de vérifier les dires de cet ancien soldat.
Mais non humain, ça voudrait dire quoi?
Ben, extraterrestre.
Ça voudrait dire...
Que la vérité est ailleurs.
Mais dis donc, vous balancez ça à 7h37, Thibault.
Ben oui, comme ça.
Les courses, ça c'est bien humain. Et oui. C'est à Laval.
Et oui, 18h en direct sur RMC. Découvert que le 2 impressionniste est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 14 Happy Valley, le 2 et le 14.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Un nouvel espoir sur le front de la lutte contre le cancer. De nouveaux traitements donnent des résultats très prometteurs. Bonjour professeur Kayat.
Bonjour.
Vous êtes cancérologue, vous suivez de très près la recherche. Dans un instant, vous nous direz tout sur ces vaccins et ces pilules contre le cancer. À tout de suite.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Et on va tout de suite regarder vos messages, vos réactions sur notre appli RMC sur Direct Studio. Ce qui vous fait réagir ce matin, cette question du trafic de stupéfiants et les violences qui l'accompagnent et qui touchent désormais toutes les villes moyennes. On a encore eu cet exemple de Nîmes, vous venez de l'entendre dans le journal, mais ça vous fait réagir de toute la France. Je vois Géraldine qui nous écrit, moi j'habite à Falaise dans le Calvados, moins de 10 000 habitants, et on constate désormais des opérations de police en liaison avec le trafic de drogue. C'est particulièrement inquiétant, nous écrit Géraldine. Laurent lui nous dit, moi j'ai 37 ans, j'habite à mi-chemin entre Nantes et Angers, et ces grandes villes ne sont pas les seules à être touchées. Ça fait maintenant des années que la drogue et les trafics s'installent dans nos campagnes, dans des zones rurales. Mais on a attendu des années pour en parler et mettre le sujet à la une, écrit Laurent. Et puis Patrick lui nous dit, la plupart de ces quartiers ont été laissés tranquilles pendant des années pour ne pas mettre le feu, pour ne pas faire de vagues. Résultat, on a laissé les trafics s'implanter. La France est en train de devenir un supermarché de la drogue et les fusillades ne sont qu'une conséquence de tout ça. Voilà ce qu'écrit Patrick. Est-ce que vous aussi, vous le constatez, ces trafics de stupéfiants, ces violences qui désormais touchent toutes les villes moyennes, vous en témoignez au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Merci d'écouter RMC, il est 7h41.
l'invité du jour.
Bonjour David Kayat.
Bonjour.
On vous connaît bien, vous êtes bien sûr le grand professeur cancérologue, fondateur de l'Institut National du Cancer, et vous venez ce matin sur RMC, porteur d'un espoir formidable sur le front du traitement des cancers. On connaissait l'immunothérapie, mais là on parle de vaccin carrément. Est-ce qu'on peut se dire que ça va marcher et en quoi ça consiste ?
Alors oui, c'est clairement, on peut penser que ça va marcher, ça commence à marcher. Il y a beaucoup d'essais, on parle beaucoup d'un essai français sur la prévention des rechutes des cancers de la bouche, des cancers de la sphère ORL. Mais en fait, il y a beaucoup d'essais actuellement de vaccins. Alors ces vaccins, ils sont testés essentiellement dans une situation clinique. C'est le malade qui a eu un cancer, qu'on a traité, opéré, rayon, chimio, etc. Et on lui donne le vaccin pour éviter que ça ne rechute. Parce que malheureusement, comme on sait, le problème du cancer, c'est cette histoire de rechute, d'apparition 1, 2, 3, 4 ans plus tard de la maladie ailleurs, souvent dans le foie, dans les poumons. Alors, ça semble très intéressant. Et le principe de ces vaccins qui font partie de l'immunothérapie, puisqu'en fait, on active le système immunitaire. Donc, c'est bien de l'immunothérapie. Le principe, c'est d'arriver à identifier. Alors, pour faire simple, tout ce qui vit est constitué de cellules, et les cellules sont constituées de protéines. Et pour fabriquer une protéine, il faut un gène. Ces gènes, c'est notre ADN, c'est notre patrimoine génétique.
Oui.
Le problème, c'est que les cellules cancéreuses, elles ont un patrimoine génétique qui est instable. Il n'arrête pas de changer, de se muter. Il y a des mutations. Qui dit gène muté, protéine mutée, anormale. L'idée, c'est ce qu'ont fait les Français, c'est d'aller chercher dans des cellules cancéreuses, malade par malade, car là, on est sur un cancer donné, pas sur les cancers. Ils vont aller chercher les protéines anormales provenant de gènes mutés. Et là, ils vont prendre cette protéine et ils vont faire en sorte que le système immunitaire réagisse contre elle et tue les cellules qui l'ont.
C'est pourquoi, pour l'instant, ces vaccins, il faut en réalité déjà avoir produit la maladie en quelque sorte.
Ah bah oui, parce qu'il faut aller chercher la maladie.
Pour pouvoir s'en prémunir à l'avenir. C'est-à-dire que exact. Ça devient un vaccin quasi individualisé.
Ah mais là, en l'occurrence, alors il y a d'autres types de vaccins, on pourrait y revenir, mais sur ce type de vaccin dont on parle, c'est totalement individualisé. Ce qui veut dire quand même que c'est lourd à fabriquer, c'est cher, hein, puisqu'on ne peut pas en fabriquer de 10 millions, hein, comme des comprimés par exemple. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant et on arrive sur ce qu'on appelle, on est à cheval entre ce qu'on appelle l'immunothérapie. Donc,
parce que c'est de la prévention de la
prévention
rechute.
De la rechute, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Mais en même temps, c'est de la médecine de précision. On est aujourd'hui, vous savez, tout le monde parle de ça depuis 4-5 ans, on va vers une médecine de précision. L'idée, et on y va vraiment très très vite, il y avait une superbe conférence à la...
C'est pas pour dans longtemps, c'est pas...
Non,
c'est testé aujourd'hui.
C'est testé aujourd'hui, et ce dont je vous parle, c'est-à-dire d'aller chercher chez tous les malades atteints d'un cancer grave, ces protéines et ces gènes anormaux, pour préparer l'avenir de ce malade, prévoir si en éventuelle rechute, et donner un traitement qui lui soit spécifique. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Et ça... C'est vraiment ce qui se passe à notre porte. Là, le problème, c'est qu'il faudrait tester les gènes de tous les malades atteints de cancer, 400 000 à peu près en France chaque année. Ça a un coût, c'est compliqué, il faut analyser. Alors, ce qu'a fait cet essai sur les cancers ORL, c'est que pour chercher quelles protéines se servir pour aller immuniser le malade,
oui.
C'est l'intelligence artificielle qui est venue aider et qui a fait les sélections.
Et qui, dans le cas de la lutte contre le cancer, est vraiment un allié.
Ah mais total. C'est nous, on s'en fout mieux en termes d'esprit, d'intelligence, de capacité à associer des informations pour en tirer quelque chose de pratique. Et l'intelligence artificielle, il faut vraiment comprendre que ça va être un outil
c'est un
fabuleux
partenaire,
pour nous.
C'est un partenaire dans la recherche, c'est un partenaire dans le diagnostic. David Kayat, là on parlait de ce qui est en train de se développer, de ce vaccin contre la rechute du cancer. Il y a également le développement d'une pilule contre le cancer du poumon.
Alors,
ça a été développé aux États-Unis, notamment par la Société américaine d'oncologie que vous avez longtemps présidé.
Oui, dirigé. Alors ce médicament, le Tagrisso, ça fait 10 ans qu'il existe. Simplement, il a été testé. Nous, en cancérologie, on doit d'abord tester chez des malades qui vont vraiment très très mal. Et ensuite, quand on voit que ça marche un peu chez ces gens-là, on va les tester chez des gens moins graves, moins graves, moins graves. Et là, il a été testé dans une immense étude qu'on appelle phase 3. C'est-à-dire, on a tiré au sort les malades. Ces malades, ils avaient un cancer du poumon sans métastase. On leur a fait de la chimio, des rayons, de la chirurgie, tout ce qu'il fallait. On les a mis en rémission. Et ceux qui avaient cette fameuse mutation qui donnait qui créait une protéine particulière, comme on a cette pilule qui attaque cette protéine particulière, on l'a donnée pendant 3 ans à tous les malades qui l'avaient. Et on a vu que ça réduisait de 50% le risque de rechute. Donc, si vous voulez, encore une fois, on est sur la prévention de la rechute, pas sur le traitement, encore que ce médicament, il marche dans le traitement. Mais il faut savoir, un, ça ne concerne que les malades qui ont cette mutation, cette protéine anormale. Alors, chez les Européens, les Américains, c'est 25-30%. Chez les Asiatiques, c'est 40-50%. Mais donc, ce n'est pas tous les malades. Ceux qui ont cette mutation, ils ont droit, après le traitement de leur cancer, pendant 3 ans, à un comprimé.
Ça va donc se généraliser chez cette partie-là, ça y est.
Ça y est.
On n'en est plus simplement au test
au début de la
recherche. Professeur Kayat, il est aussi question, puisqu'il est question de vaccins et de cancer, l'injection contre le papillomavirus, qui est justement sous forme de vaccin, va être généralisé à la rentrée les enfants, les élèves de 5e. Ce sera gratuit avec l'accord des parents. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi est-ce qu'il faudrait ou non accepter que son enfant soit vacciné contre cette forme de cancer, le papillomavirus?
Alors d'abord, il faut, bien sûr, il y a les antivax qui vont dire immédiatement que c'est dangereux. Ce vaccin, il est utilisé depuis 20 ans dans le monde entier et il n'y a aucun effet secondaire significatif. Donc déjà,
ça c'est dit.
Ensuite, comment ça marche? On a un virus qui s'appelle le papillomavirus, que les gens appellent HPV, qui malheureusement contamine tout le monde dès le premier rapports sexuels, que ce soit des rapports sexuels ou orosexuels, c'est-à-dire cunnilingus ou fellation. Ce virus, il rentre dans le corps et heureusement, la plupart d'entre nous, on s'en débarrasse, on fait des anticorps et le virus ne peut plus nous attaquer. Chez une partie de la population, le virus reste dans le corps et va développer des cancers. Cancer de quoi? Du col de l'utérus, de la bouche. 70% des cancers de la bouche sont dus à ce virus. Des cancers de l'anus, des cancers du pénis. Ce vaccin, il est extraordinaire parce qu'il réduit le risque de garder ce virus et d'avoir donc un cancer, col de l'utérus, etc., de plus de 70%. Donc c'est un vaccin très bien toléré, extrêmement efficace. Et quand on parle de la prévention du cancer, tout le monde dit « comment on peut prévenir le cancer ?» Voilà. Vous avez un vaccin, vous avez le même pour l'hépatite qui prévient le cancer du foie et vous avez l'anti-HPV, le vaccin contre l'HPV qui lui réduit le risque très très important.
Donc cette nouvelle, l'idée que tous les enfants en 5e soient vaccinés, garçons et filles, hein, c'est important de préciser.
Oui, alors pendant longtemps on a limité aux filles parce que ça coûtait cher, le double, hein, si vous faites garçons et filles, mais maintenant on s'aperçoit quand même que ça va sauver beaucoup de gens et donc finalement on a ouvert ça aux garçons et aux filles.
Merci beaucoup professeur Kayat d'être venu porteur de bonnes nouvelles et avec le sourire ce matin dans le studio d'RMC. Je rappelle que vous êtes bien sûr cancérologue, fondateur de l'Institut National du Cancer. Il est 7h49 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Qui est responsable de la destruction du barrage de Kakhova en Ukraine? Le niveau de l'eau monte et de nombreux habitants sont menacés. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir provoqué une explosion. Explication à suivre avec Nicolas Poincaré.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Il y a une immense inondation qui va faire de très gros dégâts en Ukraine. C'est le résultat de l'explosion d'un barrage hier matin. La Russie et l'Ukraine se rejettent la responsabilité.
Oui, alors ça se passe au sud de l'Ukraine, au bord donc du Dniepr, ce puissant fleuve qui coupe le pays en deux. Dans les années 50, les Soviétiques ont construit 6 barrages sur le fleuve, dont le plus grand, celui-là, celui de Kharkovka. C'est à la fois un barrage, une centrale hydroélectrique et un pont. C'était en tout cas tout ça. Le fleuve est aussi dorénavant une ligne de front. Les Ukrainiens sont au nord et les Russes au sud, mais ce sont bien les troupes russes qui tiennent le barrage et les installations électriques. Hier matin, des explosions ont détruit l'ouvrage, ouvrant une large brèche et aussitôt les flots se sont déversés.
Parce que c'est l'un des plus grands lacs de barrages d'Europe.
Oui, c'est presque inimaginable. Le barrage de Kharkovka a créé un lac artificiel de 240 km de long. C'est la distance entre Paris et Lille. 240 km de long sur 23 de large. C'est un lac qui est 60 fois plus grand que le plus grand lac artificiel de France, celui du barrage de Serpenson. On parle donc d'une quantité d'eau énorme et ces flots vont provoquer des inondations au sud du barrage, au niveau surtout de la ville de Kherson et jusqu'à dans le delta du fleuve, là où ils se jettent dans la mer Noire. Pas des inondations passagères, mais bien un bouleversement écologique pour des années. Déjà dans l'urgence, 17 000 civils ont été évacués. Des trains et des bus ont été affrétés pour éloigner les habitants. Mais ce n'est qu'un début. Du côté de Kherson, le niveau de l'eau a déjà monté de plus de 3,50 m et un millier de maisons sont sous l'eau. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle de la plus grande catastrophe environnementale causée par l'homme en Europe depuis des décennies.
Ce lac de barrage, il sert aussi à refroidir la centrale nucléaire.
La plus grande centrale nucléaire d'Europe, oui, la centrale de Zaporizhzhia, qui se trouve à l'autre extrémité du lac, mais qui tourne actuellement au ralenti. L'Agence internationale pour l'énergie atomique estime qu'il n'y a pas de danger pour le moment.
L'Ukraine, elle accuse la Russie d'être à l'origine de l'explosion, mais les Russes démentent.
Oui, alors les Ukrainiens ont aussitôt accusé les Russes donc d'avoir miné le barrage et de l'avoir fait exploser, alors que à l'inverse, le porte-parole du Kremlin affirme qu'il s'agit sans équivoque d'un acte de sabotage qui a été planifié par Kiev. Les Ukrainiens auraient donc bombardé le barrage. Les Occidentaux, eux, ont vite tranché entre ces deux versions. Londres accuse Moscou d'être responsable de ce crime de guerre. Pour les Allemands, ça correspond bien à la façon dont Poutine mène cette guerre. Le secrétaire général de l'OTAN est scandalisé. L'Europe compte demander des comptes à la Russie. À noter que les Américains, eux, sont plus prudents. Ils disent à ce stade ne pas savoir ce qui s'est passé exactement.
Et on peut se demander à qui profite le crime ?
Les Russes font remarquer que ce canal alimente la Crimée en eau potable. Le canal part du lac de Kharkovka, juste à côté du barrage. Les Ukrainiens, donc, selon les Russes, ont tenté de priver d'eau la péninsule annexée par la Russie. Mais la première conséquence de la destruction du barrage, c'est surtout que le Dniepr va devenir un fleuve infranchissable sur toute sa partie ouest, sur plusieurs centaines de kilomètres, avec ses rives inondées des deux côtés, ce qui rend donc impossible toute offensive à partir de la région de Kherson et en direction de la Crimée, la grande offensive ukrainienne qui est attendue depuis des semaines. Mais elle ne pourrait donc pas avoir lieu à l'aval de Kharkovka. Les Russes, si c'est eux, ont fait sauter le barrage et se seraient donc ainsi protégés en créant des dizaines de milliers d'hectares de marécages. Ils vont pouvoir concentrer leurs troupes ailleurs. Ce n'est pas une surprise pour les Ukrainiens qui avaient souvent ces derniers mois évoquer cette menace.
Les explications de Nicolas Poincaré à tout moment sur rmc.fr et sur l'application RMC. Il est 7h57, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal à la une du journal de 8h, vous l'entendrez. Les médicaments, les autorités sanitaires alertent, les Français font n'importe quoi.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère. C'est le slogan d'une campagne lancée ce matin pour nous inciter à ne pas faire n'importe quoi avec les médicaments. L'ombre de l'article 40 dans la bataille des retraites, c'est l'article qui pourrait être dégainé par la présidente de l'Assemblée pour balayer demain la proposition d'abrogation des 64 ans.
Et la présidente de l'Assemblée, justement, Yaël Braun-Pivet sera mon invitée à 8h30, dans une demi-heure donc maintenant, dans le face-à-face sur RMC et BFM TV.
Et un commerçant n'a pas le droit de refuser un paiement en espèces. C'est le rappel très sérieux, vous l'entendrez, de la Banque de France.
Une étude nous apprend ce matin que les Français font un peu n'importe quoi avec les médicaments. On fait n'importe quoi.
Et l'Agence nationale de sécurité du médicament lance carrément une campagne pour alerter le grand public sur les bons usages des cachets, parlant d'un enjeu de santé publique majeur. Parce qu'on a des chiffres. 3 Français sur 10 adaptent eux-mêmes la dose ou la durée des traitements quand ils sont malades. Et 1 sur 5 prend des doses plus fortes, pensant guérir plus vite. Écoutez d'autres exemples avec Marion Gauthier pour RMC.
D'abord, assuré de son sérieux.
Il est respectueux.
Ah ouais, moi je suis respectueux.
Mais la date de péremption sur les petites boîtes en carton.
C'est comme pour les yaourts, quand ils sont périmés, ils sont encore bons 15 jours après. C'est pareil pour les médicaments.
Pas de risque pour Annick et pour Michel non plus quand il a prolongé son traitement sans l'avis de son médecin.
Il m'a mis 8 jours sur antibiotiques. Je continuais encore à tousser. Et comme il me restait encore des antibiotiques dans mes boîtes, j'ai continué la prescription sur 7 jours supplémentaires.
C'est vrai qu'on devient soigné par soi-même parce qu'un rendez-vous chez un médecin, c'est pas avant 15 jours.
Se soigner soi-même ou compter sur les amis, Lola, comme un Français sur deux, prête son médicament à des proches.
Comme je prêterai un Doliprane. En fait, les symptômes que moi je reconnais comme étant de l'allergie, prends du Xizal parce que moi c'est ce que j'utilise.
Les médicaments banalisés en France, alerte Catherine Simonin de France Asso Santé.
Ne serait-ce qu'avec le paracétamol, tout surdosage, c'est un danger avec un risque de destruction du foie, donc un risque mortel.
D'après une étude, les mésusages de médicaments sont la cause de 34 000 hospitalisations par an.
Après l'article 49.3, vous allez entendre parler dans les 48 heures qui viennent beaucoup de l'article 40 de la Constitution. C'est celui qui permet de balayer un texte lorsqu'il n'est pas financé. Et c'est cet article qui sera peut-être utilisé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour écarter définitivement la proposition d'abrogation des 64 ans faite par les indépendants de Lyon. Ça fait des semaines qu'on en parle. Cette proposition n'arrivera peut-être jamais dans l'hémicycle demain. Ce serait donc la fin le point final de la bataille des retraites. Et ça fait déjà réagir, nous dit Romain Cluzel du service politique à RMC.
Censurer le texte du groupe Liotte, c'est une erreur majeure, estime Clémentine Autain. Pour la députée insoumise, Yael Braun-Pivet ne tient pas son rang de présidente de l'Assemblée.
Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. C'est un choix politique et elle n'applique absolument pas la règle, la tradition, la coutume, la jurisprudence en la matière. Est-ce qu'elle est présidente de l'Assemblée nationale ou est-ce qu'elle est un pion de la Macronie ?
Aucun doute au Rassemblement national. C'est la deuxième hypothèse qui l'emporte. Le député Franck Alizio voit dans cette décision un nouveau coup de force du camp présidentiel.
Bah, la présidence de l'Assemblée nationale est un petit peu dans le rôle de chien de garde de l'exécutif. Et de la majorité parlementaire, c'est la queue de comète du 49-3. Il continue à essayer de financer avec le Parlement, de financer avec le peuple, avec la démocratie.
Au-delà de ce texte, les oppositions dénoncent une décision sans précédent qui pourrait franchement limiter les futures propositions des groupes d'opposition. Une inquiétude balayée par le député Renaissance Jean-René Cazeneuve.
C'est au contraire une application intelligente de notre règlement intérieur et de la Constitution. C'est la moindre des choses quand on est député. Elle a respecté la procédure du début jusqu'à la fin.
Des arguments inentendables pour l'opposition. Plusieurs groupes, dont la France Insoumise, menacent de déposer une motion de censure.
Hey, Yael Braun-Pivet, invité de RMC ce matin à 8h30. Le ministre des Transports, Clément Beaune, demande ce matin aux sociétés d'autoroutes de faire un geste cet été, comme l'année dernière en fait. Un geste d'au moins 10%, demande le ministre au nom du pouvoir d'achat. Cette information que RMC vous révèle ce matin, le gouvernement va débloquer 2 milliards d'euros pour l'accompagnement des personnes handicapées, notamment pour la création d'instituts médico-éducatifs. Ce rappel très sérieux aussi de la Banque de France. Un commerçant, je vous le disais, un commerçant n'a pas le droit de refuser un paiement en liquide, y compris le dimanche, dans un festival, dans un stade aussi, tiens, par exemple. La Banque de France est sortie de son silence pour faire cette clarification, car même si on utilise de plus en plus la carte bleue, une transaction sur deux, une sur deux, se fait encore en liquide, ce que nous confirment Margot Boult et Nicolas Robert pour RMC.
Sortir une pièce ou un billet, c'est souvent un réflexe à la boulangerie.
Ce matin, je suis allée chercher une demi-baguette et un chausson. J'ai payé en espèces.
J'ai acheté un panini que j'ai payé 5 euros et je l'ai payé en pièces. Je trouve ça plus naturel.
Naturel et nécessaire même pour Aïcha qui ne paye qu'en liquide pour éviter de dépenser trop.
Quand je tire 50 euros, quand il me reste 40 euros, je sais que j'ai dépensé 10 euros. Alors qu'avec la carte, on ne se rend pas compte des dépenses. C'est presque virtuel.
Sauf qu'elle est déjà tombée sur un commerçant qui ne prenait pas la monnaie le dimanche.
Au Monoprix à Brunois. Je suis côté de chez mes parents. À partir de 13h, il n'y a plus de caissière. Et en fait, c'est les caisses automatiques, c'est le paiement uniquement par carte bleue.
Et ça, c'est illégal, comme le rappelle Julien Lassalle, secrétaire du Comité national des moyens de paiement à la Banque de France.
On voit aussi, par exemple, lors de festivals ou d'événements sportifs, des choix des organisateurs de n'accepter que les paiements par carte pour acheter des sandwichs ou des boissons. C'est illégal. La loi française dit que les commerçants sont tenus d'accepter les paiements en espèces. Même si on est un samedi, un dimanche, un jour férié.
Les commerces qui refusent un paiement en espèces risquent une amende de 150 euros.
Les évacuations continuent ce matin en Ukraine au lendemain de la destruction partielle d'un grand barrage qui provoque de grosses inondations dans le sud ukrainien et dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Plus de 40 000 personnes sont menacées.
RMC Roland-Garros 2023.
Guerre en Ukraine qui était dans tous les esprits hier lors des quarts de finale à Roland-Garros quand la Biélorusse numéro 2 mondiale Aruna Sabalenka a battu en 2-7 l'Ukrainienne Elina Svitolina. L'Ukrainienne a refusé la poignée de main. La Biélorusse, elle s'est positionnée contre la guerre, elle qui fuyait les micros depuis le début du tournoi. Ce que nous rappelle Kevin Morand pour RMC.
Oui, la Biélorusse Arina Sabalenka attendait au filet Elina Svitolina.
Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait ?
Car l'Ukrainienne avait prévenu, comme lors de ses derniers matchs contre des joueuses russes, elle refuse de lui serrer la main sous les huées d'une partie du public.
Je ne sais pas pourquoi elle attendait. Ma position était très claire. J'ai dit à de nombreuses reprises que je n'allais pas serrer la main.
Elina Svitolina avait expliqué cette position vendredi dernier.
Vous imaginez ce qu'un Ukrainien sur la ligne de front en ce moment penserait s'il me voyait faire comme si de rien n'était. Je représente mon pays. J'ai mon rôle à jouer dans cette guerre.
Arina Sabalenka, la numéro 2 mondiale, a elle justifié son attitude.
C'était instinctif. J'ai fait comme d'habitude à la fin d'un match.
Dans une salle bondée, parce qu'elle avait aussi refusé de venir face à la presse après ses deux derniers succès, la Biélorusse s'est expliquée.
Je l'ai déjà dit, je ne soutiens pas la guerre et je ne veux pas que mon pays soit impliqué. Mais j'ai trouvé que ma dernière conférence de presse tournait en émission politique et je ne suis pas une experte en la matière.
Et la politique devrait s'effacer pour sa fin de tournoi. En demi-finale, Sabalenka affrontera la Tchèque Karolina Muková.
Une partie du public de Roland-Garros donc, qui siffle l'Ukrainienne quand elle refuse de serrer la main du Biélorusse. La suite et la fin des quarts de finale aujourd'hui à Roland-Garros avec au lendemain de la qualification impressionnante de l'Espagnol Carlos Alcaraz. On aura le remake aujourd'hui de la finale de l'année dernière chez les dames entre la Polonaise Iga Świątek, une des favorites, ce n'est la grande favorite, et l'Américaine Coco Gauff.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Un service public de proximité fermé sous la pression des dealers. Est-ce que la mairie de Nîmes a cédé en annonçant la fermeture de la médiathèque d'un quartier sensible? Réponse de la municipalité, vous le verrez, elle est aux abois. Ils sont en direct dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe.
Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
On part tout de suite à Nîmes. Bonjour Pascal Gourdel. Vous êtes adjoint aux finances et au personnel. Et vous avez annoncé lundi la fermeture de la médiathèque qui est située dans le quartier sensible de Pisse-Sevin, qui était devenue la proie des trafiquants et des points de deal. La médiathèque était littéralement gangrénée. Est-ce que vous avez le sentiment, malgré vous, d'avoir dû céder?
Alors bonjour, alors céder, le terme n'est pas là, mais quand Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, avec les...
Pascal Gourdel, oui allez-y, je vous écoute.
Et les agents de la ville qui sont au quotidien confrontés à cette pression... et parallèlement créer un électrochoc auprès de l'État pour leur dire écoutez, on arrive à un stade où ce n'est plus possible, parce que là c'est un service public qui plus est qui touche la culture, qui est un vecteur, j'allais dire, d'ouverture d'esprit, et d'accueil, et surtout dans des quartiers comme ceci, et surtout pour les habitants également qui vivent ça au quotidien. Donc le but c'était préserver les agents et surtout créer un électrochoc auprès de l'État pour que ce sujet qu'ils connaissent, puisque il n'y a pas propre à Nîmes, j'ai eu l'occasion d'écouter vos lignes d'info depuis ce matin, vous évoquez Valence, vous évoquez Grenoble, un coup c'est Marseille, un coup, et on voit bien que ça gangrène, ces problèmes de deal sont en train de gangréner de nombreux territoires en France et créer ce n'est même plus un sentiment d'insécurité. C'est vraiment de la sécurité et qui touche tout le monde et qui empêche les services publics en général de s'exercer.
Et quand vous dites ça, vous qui êtes adjoint donc à la mairie de Nîmes, quand vous dites que ça n'est plus un sentiment d'insécurité, c'est de l'insécurité, ça fait référence évidemment aux mots du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui en arrivant à son poste de ministre de la Justice avait dit « il y a un sentiment d'insécurité ». Non, c'est pas un sentiment, c'est ce que vous dites. Et vous savez quoi, Pascal Gourdel? Eh ben, il y a Solco qui nous a appelé au 3216, qui est habitante de Nîmes, et qui voulait justement témoigner aussi du fait que cette médiathèque, vous la connaissez comme consommateur de drogue, c'est ça? Racontez-nous, Solco.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, effectivement, je l'ai connu étant petit, en tant que jeune enfant qui allait chercher son livre tous les mercredis après-midi à la médiathèque.
Ouais.
Et c'est vrai que oui, j'en ai découvert un peu les bas-fonds et le côté un peu obscur de ce quartier. Et j'en ai vite compris la finalité. Et quand j'ai était dans un âge à vouloir découvrir un peu cette face-là, de découvrir, à fumer des joints, etc. Je savais où aller me fournir. Je savais très bien qu'il fallait que j'aille au quartier de Pissévin, à côté de la galerie Wagner, de la bibliothèque. Donc, en soi, c'est un problème. J'ai 27 ans.
Ouais.
J'ai commencé à fumer, je devais avoir 17-18 ans.
Ouais.
C'est un problème qui dure depuis 10 ans. Monsieur Gourdel, quand il me dit qu'il faut faire un électrochoc pour l'État, il faut fermer la médiathèque, ce n'est pas la solution. Déjà, c'était avant qu'il fallait le faire, et ce n'est pas en fermant la bibliothèque et en supprimant ce seul côté, comme il a dit, culturel de ce quartier-là. Au contraire, en fait, c'est ça qui va en
mais faire que... Solco, oui. Est-ce que vous vous sentez pas, c'est-à-dire que vous, c'est quand même extraordinaire d'imaginer que vous avez vous-même été l'enfant qui allait chercher ses livres à la médiathèque, et
sûr.
Vous êtes ensuite devenu l'adolescent qui allait chercher de la drogue à la médiathèque. Et aujourd'hui, vous dites bon, faut pas fermer la médiathèque. Je veux bien, mais est-ce que vous vous sentez pas un peu responsable?
Ben, responsable en soi, si on pourrait dire que oui, mais c'est pas là, c'est pas la question et c'est pas le sujet que vous voulez aborder, non, dans le
sens où... si, je trouve ça important, non, mais Solco, je trouve d'abord que c'est formidable que vous nous ayez appelé, parce que c'est vrai que on a souvent des témoignages des gens qui disent ça va pas, c'est dur, voilà ce que j'observe. Vous voilà, vous nous appelez, vous nous dites j'ai été chercher des livres dans cette médiathèque quand j'étais enfant et j'ai été y acheter de la drogue adolescent. Je sais pas si vous continuez à y aller aujourd'hui, puisque vous avez 27 ans aujourd'hui, et que est-ce que vous continuez à y aller?
Ça m'arrive, ouais.
Et vous vous sentez, et vous avez quand même l'impression que les responsables et que la question, c'est la mairie. Mais vous n'avez pas l'impression de faire partie sens,
quand
du...
Quand je dis la mairie, non, c'est la façon dont M. Gourdel l'a dit, où ils veulent faire un électrochoc en fermant la médiathèque, en se disant que c'est à l'État de régler le problème. Mais en soi, il n'y a pas de présence policière sur place, il n'y a pas de commissariat.
Vous n'avez jamais été inquiété en y allant?
Moi, je pense aussi, des fois, vous faites des MJC pour créer des activités.
Des maisons de la jeunesse et des sports.
Un côté un peu, c'est une mission un peu de humaine, à amener la culture aux jeunes. Nous à Nîmes, on a une culture qui est ancrée, c'est la culture taurine. Pourquoi on pourrait pas créer des activités? Je sais que déjà ça se fait à la maison d'arrêt de Nîmes. Pourquoi on pourrait pas recréer un peu de dynamisme et de culture dans ce quartier?
Vous êtes toujours habitant de ce quartier, Solco?
Je suis pas habitant de ce quartier.
D'accord. Mais quand vous alliez à la médiathèque...
Nîmes, je suis habitant de Nîmes, mais je suis pas habitant du quartier.
D'accord. Mais vous retournez dans ce quartier pour vous fournir?
Ça, c'est rare, mais ça m'est arrivé, oui. Mais c'était plus dans ma jeunesse. Mais ça n'a pas changé. Au contraire, ça s'est organisé.
Ça s'est organisé.
C'est un commerce.
Tout le monde sait où trouver la drogue.
Quand on dit que c'est de l'insécurité, là où je suis pas d'accord, c'est dans le sens où c'est tellement commercial qu'en fait les personnes sont avenantes, sont là pour faire leur commerce.
Ils sont commerçantes, en fait. C'est le cas de le dire, quoi. Ils sont commerçants, quoi.
Ouais, non, mais c'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment l'impression de se croire dans un centre commercial où c'est tagué partout sur les murs avec les prix de tout ce qu'ils peuvent vendre. C'est impressionnant comme l'organisation est bien faite.
Et bien faite. Solco, j'entends parfaitement votre témoignage. Il est très précieux. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même un peu un décalage entre ce que vous constatez et ce que vous faites, c'est-à-dire ne pas vous sentir responsable. Alors, je sais bien qu'il est trop facile de dire que chaque acheteur de joint est responsable de la criminalité, mais quand même, c'est une longue chaîne. C'est-à-dire que si vous n'allez pas acheter de la drogue, à force, ils arrêteront, enfin, ou ils iront la vendre ailleurs, quoi. En tout cas, je trouve que chacun a sa part de responsabilité. C'est difficile de s'en dédouaner. En tout cas, merci de votre témoignage. Un dernier mot avec vous, monsieur l'adjoint au maire, Pascal Gourdel. Vous l'avez entendu, ce témoignage de Solco à l'instant, qui y a été enfant pour aller retirer les livres à la médiathèque, qui y est retourné adolescent et qui y retourne encore un peu aujourd'hui pour être consommateur. Il a l'air de dire que de toute façon, ça fait des années que ça dure et que c'est pas en fermant la médiathèque que vous allez réussir à y mettre fin.
Ah non, mais vous avez entièrement, et il a entièrement raison, puisque quand j'évoque la notion de... Allô ?
Je vous entends.
Ah oui, quand j'évoque le mot d'électrochoc, c'est que l'électrochoc, c'est pourquoi? Parce que la maladie y était depuis déjà de nombreuses mois et de nombreuses années, et que en fait, ça n'a fait que s'accentuer au point de rendre très difficile, parce que j'ai entendu l'auditeur qui était très posé dans son raisonnement. Mais là où je vous rejoins également, c'est que bon, il faut pas jeter la pierre que sur le consommateur. Je suis bien d'accord, mais
non, à aucun moment. Mais
le consommateur est quand même.
Mais en tout cas, il peut pas s'en dédouaner.
Il peut pas s'en défaire parce que quelque part, c'est notre. Je vois Emmanuel Le Chypre à côté d'un volet économique qui m'intéresse énormément. S'il y a pas de consommateur, il y a pas de plante. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point. C'est que il évoque lui des venues ponctuelles, alors que vous avez des agents par exemple et des habitants, eux c'est le quotidien.
C'est leur quotidien et c'est vrai que c'était même ironique d'entendre dans la voix de Solco à quel point lui il dit ils sont pas désagréables et j'ai pas le sentiment d'une insécurité parce qu'ils sont très avenants, évidemment ils accueillent le client, c'est le cas de le dire. Merci Pascal Gourdel d'avoir expliqué donc votre démarche ce matin et merci à Solco pour son témoignage donc depuis Nîmes dans le Gard. 8h20, c'est l'heure d'Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Eh ben oui.
Bonjour Arnaud.
Moi. Bonjour à tous. Alors Apolline, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Sophie Binet est arrivée. Votre invitée de 8h30 d'hier vient d'arriver dans nos studios. Elle a eu un léger retard hier. Elle est arrivée en mode... Putain, à cause de ces gauchos de grévistes, ça roule super mal dans Paris, je te mettrais tout ça au goulag. Hein
pour ceux qui auraient loupé l'épisode, elle est arrivée avec 15 minutes de retard hier, mon invitée Sophie Binet, la patronne de la CGT.
Alors à propos, c'était hier la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et il s'est passé un truc marrant à Rennes, vous en avez parlé dans le journal tout à l'heure, les drones de la police ont été attaqués par... des mouettes, des vraies mouettes. Ils sont forts, les syndicalistes rennais.
Ils ont dressé
des balèzes. Hein. Dans Game of Thrones, les ennemis du pouvoir, ils ont des dragons. Eux, ils ont dressé des mouettes. Des mouettes communistes qui boivent de la 8-6, qui sont là. Macron, démission. Oui. Je pensais pas.
Oh là là. Dis donc, Arnaud.
Je pensais
c'est
pas.
T'as un talent caché,
faire...
ça.
Ah ben, je savais pas que j'allais faire un jour à la radio une mouette altermondialiste. 50 conservatoires, quand même. Ça a servi, hein, les études. J'aurais adoré voir le policier qui a dû appeler son supérieur pour expliquer ce qui s'est passé. Chef, on nous a cassé les drones. Ah, ça, c'est les Black Blocs encore. Non. C'est des mouettes. Eh, Robert, t'as encore picolé dans les staffettes, Robert. Sophie Binet, elle doit préparer la guerre syndicale animalière. À la CGT, ils vont envoyer des punaises de lit chez le préfet et des morpions dans les tenues en Kevlar des CRS qui vont... Ah, de son côté, Emmanuel Macron était en Normandie pour commémorer le débarquement. Les journalistes ont voulu savoir s'il avait recadré Elisabeth Borne suite à ses propos sur le RN héritier de Pétain. Et alors là, le chef de l'État, il nous a répondu un truc de l'espace. On écoute, vous me dites si vous comprenez quelque chose. Concentrez-vous.
Ce qu'on a voulu créer avec la Première Ministre n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Mais là aussi, il faut de la rigueur. Parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. Et ça, ce qui s'est passé.
J'avais pas eu l'histoire. Je vous jure, je n'avais pas entendu.
Ça a été coupé, c'est pas possible.
Non.
Non, des bulles de savon, mais il n'y a pas de mousse de bulles de savon.
Aux bulles, enfin, moi, jusqu'à clapotis, je voyais à peu près l'idée, mais aux bulles de savon qui font pas de mousse,
il m'a
largué. Vous le saviez, vous, Apolline, que sans rigueur, il n'y avait pas de mousse? Chers auditeurs, si vous nous écoutez sous la douche, frottez-vous avec de la rigueur. Dites-nous si ça fait des bulles qui font pas de mousse. On a besoin de savoir, là. Peut-être qu'Emmanuel Macron est déréglé, hein. Faut l'emmener chez le réparateur, là. Bonjour, monsieur. J'ai mon président qui déconne. Il fait un bruit bizarre. Écoutez.
Il n'y a même plus de mousse.
Ça, c'est le carburateur, ça, hein. Il carbure à quoi? Ben, je sais pas, mais c'est de la bonne. Ça lui arrive souvent de vous dire un truc qui a aucun sens? Toutes les semaines. Bon, bref, si vous avez compris son histoire de clafoutis qui fait pas de mousse, contactez-nous au 3216. On attend des réponses.
Le standard vous est ouvert. Depuis le début du conflit ukrainien, les productions d'engins militaires gonflables sont en forte hausse. Des chars gonflables sont utilisés pour tromper l'ennemi.
Oui, alors par exemple, il y a un drone ennemi qui doit arriver. Et hop, vous gonflez un tank taille réelle pour le tromper et c'est très pratique. Enfin, c'est pratique. Faut pas avoir perdu son gonfleur quand même. Hein.
Non.
Parce que vite, Zvonimir, les drones approchent, gonfle le char. Dépêche-toi. Non mais déjà gonfler une bouée avec la bouche, c'est relou. Alors un char de cette taille-là, peut-être qu'on peut piéger l'ennemi aussi avec des soldats gonflables. Là, les fabricants de poupées gonflables, ils vont voir leur business redécoller d'un coup. C'était ringard depuis les années 80. Alors, d'ailleurs, si vous avez dans votre garage une poupée gonflable, hein, vous l'avez utilisée une fois, vous avez eu honte de souffler dedans, de lui faire tout ce qu'il y a à lui faire, et ensuite de la laver dans l'évier en la récurant avec une brosse à biberon, eh ben... Depuis, elle prend la poussière dans le garage. Eh ben, sachez qu'elle peut encore servir. Envoyez-la aux Ukrainiens. C'est l'opération Une poupée pour la paix. Gagnons la guerre avec des soldats gonflables. Ça va être plus fun de regarder les journaux télévisés quand même. Bonjour, bienvenue sur BFM. Nous sommes en direct du front. Agathe Lambret, les Russes lancent une offensive, je crois.
Oui, tout à fait. Je suis actuellement avec une compagnie ukrainienne qui m'invite à monter sur un char d'assaut. Attendez, je grimpe dessus. Alors, je me suis trompé, il était gonflable. C'est bien imité quand même. Je m'approche maintenant d'un lieutenant qui va m'expliquer... Ah bah, il était gonflable aussi, il s'envole dans tous les sens.
Au train où ça va, on va protéger les blindés avec des bouées licornes. Allez, à demain et gros bisous.
Gros bisous. Arnaud de Manche, extraordinaire, tous les matins, 7h20, 8h20. Il est 8h25, dans un instant, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui sera donc mon invité. Mais c'est dur de sans transition, on est d'accord ou pas?
C'est pas facile d'enchaîner.
C'est vrai, c'est pas facile. Oui, c'est très dur. Oh là là, je reprends mon souffle, c'est le cas de le dire. Yaël Braun-Pivet, mon invité, c'est dans un instant sur RMC et BFM TV, à tout de suite.
RMC, 6h39, Apolline Matin.